Soyez bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'International. C'est une figure de la diplomatie française et européenne que nous recevons aujourd'hui. Pierre Vimont, merci d'être sur le plateau d'International. Votre personnage a même été porté à l'écran dans le film Quai d'Orsay. Je le disais, une figure. Vous avez été ambassadeur de France à l'Union européenne, aux États-Unis. Vous avez dirigé les cabinets de plusieurs ministres des Affaires étrangères en France. Vous avez également été directeur de cabinet de Catherine Ashton à Bruxelles. Dernière mission en date, représentant du président du Conseil européen, Donald Tusk, à la conférence sur l'immigration illégale. Autant dire que vous êtes un bon connaisseur, évidemment, de la diplomatie mondiale. Alors, on se dit parfois, un ambassadeur, ça parle de façon très discrète, un peu feutrée, avec beaucoup de prudence, peut-être de langue de bois. Mais la chance que nous avons tous, je le dis aux auditeurs et aux téléspectateurs, c'est que vous n'êtes plus en fonction depuis exactement 48 heures. Donc, une parole libre que nous allons être heureux d'entendre, et puisque vous allez répondre aux questions de Sophie Malibaud, de RFI, et de Philippe Ricard, mon confrère du Monde. Dernière mission en date, je le disais, sur l'immigration illégale. Je vous propose de revenir sur le dossier européen avant de vous entendre réagir.
En cette année 2015, plus que le Grexit ou l'absence de reprise économique, c'est bien la crise des réfugiés qui a crispé tout le monde. Jusqu'aux Britanniques, venus à Bruxelles exiger des réformes en matière d'immigration, avec une proposition mal perçue par les partenaires, supprimée au Royaume-Uni, toute aide sociale aux immigrés membres de l'UE pendant 4 ans.
Ça va être difficile, mais je crois que 2016 sera l'année où nous réaliserons quelque chose d'essentiel qui changera fondamentalement la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Alors qu'à Bruxelles, le dossier des réfugiés pourrait bien servir aux partisans du Brexit à provoquer la sortie du Royaume-Uni de l'Union. Chaque jour, les rives de l'Europe voient débarquer 4000 personnes depuis la Grèce ou la Turquie. À ce rythme-là, 1 million de migrants seront arrivés en 2015. En réponse, les 28 ont multiplié les décisions. Mais en réalité, la relocalisation de 160 000 réfugiés adoptée en octobre concerne par exemple 184 personnes seulement pour l'instant. Quant aux fameux hotspots, ces centres d'enregistrement de migrants en Grèce et en Italie, seuls 2 sur les 11 prévus sont opérationnels. Face à la plus importante crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale, le vieux continent semble se raidir. Tandis qu'en mer, les naufrages d'embarcations se succèdent. En 2015, des kilomètres de clôture en barbelés se sont élevés en Hongrie, en Slovénie ou en Autriche, reléguant l'agence de surveillance des frontières extérieures, Frontex, au second plan.
Les États sont souverains, oui, mais pour l'intérêt collectif, pour sauvegarder la libre circulation dans l'espace Schengen, l'Union a plus d'effet de levier et l'agence Frontex a plus de poids.
Mais à Bruxelles, même la question d'un corps européen de garde-frontières a été reportée à plus tard. À défaut de s'entendre sur les moyens à mettre en place sur son territoire, une seule fois en cette année compliquée, l'Europe a fait preuve d'unité pour traiter le problème dans les pays d'origine des réfugiés. En novembre, au sommet de La Valette à Malte, l'Union lançait un fonds d'aide à l'Afrique de près de 2 milliards d'euros.
Pierre Vimont, lorsque l'on regarde les images de ce dossier, donc sur la réponse de l'Union européenne à cette migration massive, on constate qu'il n'y a pas justement de réponse des 28. Chaque État membre, au fond, a sa propre politique, que ce soit la Hongrie et ses barbelés, ou l'Allemagne qui accueillait. Quelle est la réponse de l'Europe pour vous, celle dont vous étiez en charge, ou quelle vous semble être la réponse la plus pertinente ?
D'abord, merci de m'avoir invité.
Et
je crois que la réponse de l'Europe, comme toujours, hein, elle est lente, elle est laborieuse. L'Europe n'anticipe pas suffisamment les crises qu'elle affronte. Il lui faut du temps. Mais peu à peu s'ébauche quelque chose qui commence à ressembler à une politique de l'immigration. Et c'est un peu ce que disait votre reportage, qui soulignait les différents points qui sont sur lesquels l'Europe actuellement travaille. Contrôle aux frontières, renforcement du contrôle aux frontières, les fameux hotspots, les centres d'accueil, il n'y en a que 2, il en faudrait beaucoup plus, etc. Tout ça, c'est vrai, mais les choses avancent. Après avoir un peu tâtonné, les États membres ont à peu près compris les points sur lesquels il fallait qu'ils travaillent, ils commencent à le faire. Il faut comprendre que ça prend du temps. Dans votre reportage, vous disiez, et c'est vrai d'ailleurs, que l'Europe n'avait pas encore pris de décision sur les gardes-frontières. Mais les gardes-frontières, c'est une proposition de la Commission qui a été faite mardi dernier. C'est une proposition que le Conseil Conseil européen a regardé, a fait donner un premier avis. Il faut maintenant aller dans le détail. Il faut que le Parlement donne son avis. Ça va prendre
du
temps.
Oui, mais il y a une urgence, puisque 4000 personnes arrivent quotidiennement. Encore des naufrages et des noyés cette nuit. C'est cette différence de perception dans les opinions publiques entre l'urgence absolue et l'Europe diplomatique qui prendrait, et politique qui prend son temps sur plusieurs mois.
Oui, mais c'est parce que l'Europe, elle a des règles. Elle a des règles de droit. Il faut qu'elle les applique. Et que ce qui se passe, c'est qu'en face, on a une crise qui est une crise d'une ampleur et d'une dimension qu'on n'a jamais vue. Quand on dit il y aura à la fin de l'année plus d'un million de réfugiés et d'immigrés qui se sont présentés aux portes de l'Europe, ce qu'il faut voir, c'est qu'en réalité, l'essentiel de ce million est arrivé dans les 6 derniers mois, depuis l'été. C'est des proportions, 4 à 6 000 personnes qui frappent aux portes de l'Europe chaque jour, c'est des proportions qui aucun État membre ne peut régler comme ça. Et donc, vous avez l'opposition entre un temps court, la pression qui est là, et le temps long qui est généralement celui de l'Europe. Et il faut arriver à trouver un compromis entre les deux.
Philippe Ricard,
vous disiez qu'une politique européenne d'immigration s'ébauche à cette occasion, mais on a quand même le sentiment que beaucoup des décisions prises, notamment la relocalisation de ces 160 000 migrants ou réfugiés, patinent totalement. Est-ce qu'en fait, on n'est pas tout à fait au bout d'une certaine forme d'Europe, incapable de mettre en œuvre ce qu'elle décide dans l'urgence ?
Non, je crois qu'on est d'accord pour le mettre en œuvre, mais là encore, on a peut-être mal perçu le temps que cela prenait. Prenez la relocalisation, qui est tout simplement comment partager le fardeau entre les 28 États membres pour qu'ils prennent en charge un premier stock, en quelque sorte, de réfugiés et d'immigrés qui sont là. Ça demande un travail administratif assez long. Ça demande non seulement d'abord d'enregistrer, de prendre les empreintes, etc. Ça consiste ensuite à faire un examen individuel de chacun des réfugiés, donc des 160 000 qui sont là, pour voir avec eux quel est le pays de l'Union européenne dans lequel vers lequel on peut les diriger. Et ça prend énormément de temps. Prenez le cas de Frontex, qui a demandé plus de 700 experts venus des
services de garde aux frontières extérieures de l'Europe.
Absolument. À défaut d'avoir un service comme on veut le créer de garde aux frontières permanent, pour le moment, il faut recourir aux experts des États membres. Demander entre 700 et 800 experts aux États membres, ça prend du temps. Il faut que ces gens se mettent en place et viennent.
Parce que les États veulent pas déléguer ce personnel, en fait ?
Non, ils sont prêts à le donner à titre dans cette phase de transition, en quelque sorte, dans laquelle on est, mais c'est des gens qu'on détache temporairement.
Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un danger majeur ? C'est que l'Europe se délite totalement sur cette crise non résolue, sur cette incapacité à faire face.
Il y a un risque. Vous avez raison, et c'est bien pour ça que le Conseil européen, donc l'instance suprême de l'Union européenne, s'est quand même réunie près de 6 fois déjà sur ce sujet depuis le début de l'année. On voit bien qu'il y a un problème et qu'il faut le traiter. Le problème de court terme, c'est celui dont on parle, c'est-à-dire comment avoir une réponse efficace à une demande urgente qui est ce million de réfugiés et d'immigrés qui frappent à nos portes. Et ça, peu à peu, encore une fois, quelque chose s'ébauche difficilement, laborieusement, mais quelque chose se met en place.
Vous regrettez qu'il n'y ait pas des États en dehors de l'Allemagne, qui a reçu beaucoup de monde pour l'instant, est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas des États comme la France qui soient capables de montrer l'exemple au niveau de l'accueil ?
Mais la France est prête à prendre sa part du fardeau, et donc dans cette relocalisation, la France prendra sa part. Regardez un autre pays dont on parle peut-être pas assez souvent en France, mais qui est, je dirais, aussi généreux, entre guillemets, que l'Allemagne, qui est la Suède. Toute proportion gardée, la Suède accueille aussi beaucoup de réfugiés. Mais la Suède, récemment, a dû mettre la clé sous la porte et a dit « moi, je peux plus, il faut que j'arrête, parce qu'actuellement, je n'arrive plus à accueillir comme il convient tous ces réfugiés qui viennent chez moi. Il faut donc que j'arrête et que je remette de l'ordre et qu'on remette de l'ordre dans le flux qui vient chez moi, parce que sinon, je n'y arrive plus. »
Est-ce que l'Europe doit apporter justement une carte, j'allais dire, contraignante, obliger, entre guillemets, chacun des États à accepter un quota de migrants ?
On n'arrivera pas à obliger les États s'ils ne veulent pas. Je veux dire, ça doit être une affaire de pédagogie, de travail en commun, où chacun accepte de jouer le jeu. Et c'est ce travail-là qui est en cours. Mais quand vous voyez des pays comme la Hongrie ou comme la République tchèque qui manifestent une très grande réserve vis-à-vis de ce schéma de relocalisation, on arrive sur, à mon avis, une question plus grave et plus importante pour l'Europe et qui revient à votre question sur le risque de délitement. C'est que les sociétés de ces pays-là ne sont pas du tout des sociétés multicommunautaristes. polarisés comme le sont les nôtres. Et donc pour eux, il y a tout un travail à faire de caractère politique, social, je dirais sociologique, pour essayer d'accepter une évolution de leur société qui pour le moment n'a pas eu lieu.
Mais c'est possible de voir les centres de décision de l'Europe, la Commission, accepter que des pays, par exemple, demandent de faire le tri, d'avoir des réfugiés chrétiens, par exemple, et pas des autres confessions.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut en discuter, qu'il faut arriver à se mettre d'accord sur la bonne approche et de réfléchir au-delà de la relocalisation, est-ce qu'il pourrait être un système plus stable, plus cohérent. Vous savez qui est ce qu'on appelle le resettlement en anglais, c'est-à-dire le réétablissement, qui est un schéma par lequel on va chercher les réfugiés dans les pays d'accueil actuellement où ils sont, dans les pays de transit.
Turquie par exemple,
où les États membres disent oui, je suis prêt à prendre un certain nombre de réfugiés. Le travail administratif se fait là et c'est un immense avantage, c'est que ça donne un moyen plus sûr, plus légal pour ces gens-là de venir en Europe et surtout ça évite tous ces malheureux de passer par les passeurs et de prendre d'énormes risques pour venir en Europe.
Comment voyez-vous l'année 2016 de ce point de vue-là? On va continuer avec une telle masse de personnes qui cherchent à venir vers le continent européen?
Non.
Est-ce qu'on aura un corps de garde-côte aussi ou garde-frontière européanisé ou pas?
Enfin, pense que dans le courant de l'année 2016, ce dispositif de garde-frontière se mettra en place. Mais encore une fois, ça va prendre du temps parce qu'il faut négocier ça avec le Parlement européen et les États membres. Ce que l'on peut espérer, c'est deux choses en réalité pour essayer d'arrêter un peu la pression actuelle. C'est que la Turquie et éventuellement d'autres pays de transit assurent un meilleur contrôle à leurs frontières aussi vis-à-vis de ces réfugiés qui essayent de passer en Europe. Et peut-être aussi, faut-il espérer, puisque l'une des sources de ces réfugiés, c'est la Syrie, c'est que la négociation qui est en train d'être lancée pour essayer de trouver une solution politique à la crise syrienne va aller de
donc
l'avant.
Assécher à la source, quoi.
Voilà. N'oubliez pas quand même qu'il n'y a pas simplement des réfugiés syriens, il y a aussi des réfugiés irakiens et aussi un nombre croissant de réfugiés afghans. Mmh. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi traiter à la source les crises politiques dans ces pays-là.
Et qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur l'ambassadeur, pour éviter que ne s'installe dans les têtes ce lien qui est relevé par certains entre terrorisme et immigration? C'est exploité par tous les partis extrémistes d'Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ça?
Il faut faire deux choses. D'abord, il faut répéter que le lien n'est pas celui-là, même s'il peut y avoir certains cas, comme on l'a vu au moment des attaques du 13 novembre à Paris. Le million d'immigrés qui actuellement frappe aux portes de l'Europe, ce n'est pas un million de terroristes. Et je crois que ça, tout le monde est d'accord. Mais la deuxième chose qu'il faut faire, bien évidemment, c'est renforcer le contrôle aux frontières et de manière très simple, c'est-à-dire faire en sorte que, pour dire les choses simplement, faire en sorte que le fichier de la police et le fichier qui a identifié un certain nombre de terroristes potentiels puissent être connectés avec le fichier de Schengen et le fichier d'identification des gens qui passent la frontière. Et qu'à travers ce moyen-là, on renforce un peu nos moyens de contrôle en même temps que l'échange de renseignements aussi se fait d'une manière plus efficace que ça n'a été le cas jusqu'à maintenant.
Pierre Vimont, vous avez beaucoup travaillé à des postes européens. Avec cette crise des migrants, on a le sentiment que les opinions publiques dans leur ensemble se détournent du projet européen. C'est peut-être le plus grave, ça.
Je ne suis pas sûr qu'elles se détournent forcément du projet européen. C'est-à-dire que quand vous continuez à interroger les opinions publiques, elles continuent à croire que l'Europe reste une solution utile et possible pour l'avenir. En d'autres termes, si on est unis, on est plus fort dans tous les dossiers sur lesquels on veut avancer ensemble. Mais ça vaut pour l'immigration, comme ça vaut pour l'économie, comme ça vaut pour la diplomatie. Ce qui fait peur, je crois, aux opinions publiques, et ils ont raison, c'est quand ils voient la difficulté que rencontre actuellement l'Europe pour agir efficacement en matière d'immigration, ils ont le sentiment que le système patine un peu et a du mal à avancer. Et donc ce qu'ils ont envie, c'est qu'on améliore la manière de faire de l'Europe et qu'on soit plus efficace qu'on en l'a été. C'est ce que l'Europe essaye de faire à l'heure actuelle. Hein, et je pense que peu à peu, on verra que ça avance et que ça va dans le bon sens.
Pierre Vimont, est-ce que ce qui brouille le message de l'Europe, c'est pas aussi sa faible ambition? Quand on voit que les quotas, enfin le nombre d'immigrants acceptés qui seraient donc relocalisés, on s'en tient à 160 000 alors qu'ils sont déjà plus d'un million arrivés sur place. Quel sens est-ce que ça a, cette dichotomie entre les chiffres?
Oui, vous savez que les 160 000 à l'époque, c'était un premier effort de partage du fardeau avec l'idée qu'ensuite on aurait un mécanisme permanent de relocalisation. Alors ce mécanisme permanent, pour le moment, c'est vrai qu'il n'est pas en place et qu'un certain nombre d'États membres ont des réserves, d'où aussi l'idée de voir si on ne peut pas faire ça différemment à travers ce mécanisme de réétablissement dont je parlais tout à l'heure et qui nous permettrait et qui permettrait à l'Europe de travailler plus directement avec les pays de transit. Mais je crois que derrière ça, votre question sur l'ambition, c'est une vraie question et vous avez raison. Et il faut que les États membres se mettent autour de la table et réfléchissent un peu, comme ils ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant, sur quels sont les objectifs d'une politique d'immigration. Et là, vous voyez d'ailleurs que le problème n'est pas le même selon les pays. On le sait bien, l'Allemagne, qui risque d'avoir un déficit démographique au cours des années à venir, peut être tentée de recevoir du monde chez elle et d'avoir des réfugiés ou même peut-être des immigrés économiques. Ça peut être le même cas dans d'autres pays qui sont dans la même situation démographique. Ce n'est pas le cas pour la France ou pour d'autres pays qui ne sont pas dans cette situation-là.
Et est-ce qu'il ne manque pas un outil économique aussi pour accompagner des mesures ambitieuses, une sorte de plan Marshall peut-être pour adapter les économies des différents pays d'Europe à cette nouvelle donnée?
Il faut sans doute un plan de développement économique plus ambitieux, d'abord avec les pays d'émigration, c'est-à-dire avec en particulier l'Afrique, qui, elle, va être exactement dans la situation inverse de l'Europe. Vous savez que sa population va doubler à peu près d'ici le milieu du siècle. Ils seront 3 milliards en Afrique et non plus 1 milliard et demi. Et avec raison, ils disent, si vous voulez pas qu'il y ait un flux croissant d'immigrés, aidez-nous dans notre développement économique à lutter contre la pauvreté, contre le dérèglement du climat et contre l'insécurité croissante en Afrique qui devient un vrai problème de fond.
On observe qu'il y a une victime collatérale, si je peux l'appeler comme ça, à la crise des réfugiés, c'est l'espace de libre circulation Schengen. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que cet espace va survivre à l'année 2016? Ou est-ce qu'il est déjà mort? Juncker, je crois, a parlé de coma pour cet espace. C'est votre avis?
Il est en difficulté, incontestablement. Mais je crois que l'intérêt de Schengen est toujours là, l'intérêt à avoir une libre circulation, pas simplement d'ailleurs pour les citoyens, et c'est important, mais pour les entreprises. Les contrôles qu'on a remis actuellement aux frontières entre la France, la Belgique, la France et l'Allemagne et tout ça, beaucoup d'entreprises actuellement s'inquiètent de cela, et avec raison, parce que les transports routiers sont encore un mode de transport tout à fait essentiel pour les entreprises et elles connaissent actuellement des retards croissants et très très difficiles pour l'acheminement de leurs marchandises. Donc je crois qu'on a besoin toujours de Schengen et que Schengen reste indispensable. Il faut simplement, là encore, arriver à le renforcer et c'est ce sur quoi actuellement on est en train de travailler.
Alors Pierre Vimont, vous avez, je le disais, dans vos récentes fonctions, dirigé le cabinet de Catherine Ashton, haute représentante de l'Europe aux relations internationales. Déjà le titre est long. Est-ce qu'il y a vraiment une diplomatie européenne? On a le sentiment qu'au fond, les grands États, on peut même parler de la France, n'ont pas envie qu'il y ait une diplomatie européenne. C'est pour montrer un poste, mais c'est presque un faux semblant. On n'y arrive pas à avoir une diplomatie.
C'est-à-dire que la diplomatie européenne, elle est encore essentiellement entre les mains des États membres. Il faut d'abord bien le voir. C'est même pas la question de savoir s'ils ont envie de créer une diplomatie européenne. C'est d'abord de savoir si ils sont prêts à donner un peu plus de leurs prérogatives à Bruxelles, pour dire les choses simplement, parce que c'était un peu ça l'ambition du traité de Lisbonne, et on n'y est pas encore.
On peut dire que c'est pas totalement imposé dans ce rôle. Même difficulté pour Mme Mogherini qui lui succède.
C'est-à-dire qu'il y a des succès ici ou là, ponctuels, comme Javier Solana le faisait aussi. Mme Ashton a eu un vrai succès dans la négociation entre la Serbie et le Kosovo. Mme Mogherini, comme d'ailleurs Mme Ashton avant, a joué un vrai rôle important dans la négociation et l'accord sur le programme nucléaire iranien. Mais il en faudrait plus. Il faudrait avancer.
Vous listez des points positifs comme le verre à moitié plein ou à moitié vide. On se retrouve dans 2 minutes exactement. On fait un point d'actualité. On vous retrouve avec d'autres questions, notamment le Brexit.
Il est bientôt 12h30 à Paris, 11h30 en temps universel. Merci d'être fidèle à RFI.
Aurélien de Vernois.
Bonjour à toutes et à tous. 36 millions de...